Bon, donc on va essayer de terminer le seul verset qui nous restait de la péricope passée, que l'on va peut-être lire dans le texte quand même, le verset 18. Dans la Tobe, donc 11-18, c'est à ces mots, donc après l'explication de Pierre, à ces mots, les auditeurs retrouvèrent leur calme et ils rendirent gloire à Dieu. Voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. Citation donc à partir de voilà. Donc je ne me rappelle pas s'il y avait une question sur le verset 18 de la fois d'avant, parce que je n'ai pas le questionnaire sous les yeux.
Tu veux s'en dire que toi, alors, les croyants
dans les deux dernières, c'est sur le 18.
Oui.
Ok.
Non, je me trompe de papier. En
fait. On avait déjà vu la 18, je pense.
Un petit peu de la première partie du verset. Si vous avez des suggestions. Donc je vous avais juste dit, je crois que le grec ne dit pas ce que dit les traductions françaises, puisqu'on dit ils retrouvèrent leur calme, alors qu'en fait c'est ils se turent, sous-entendu. Évidemment, c'est le calme, puisqu'il affirme.
Oui,
mais sous-entendu, il n'avait plus d'argument. Il n'avait rien à opposer à ce que Pierre venait de raconter. Mm-hmm. Après, je ne pense pas que j'ai été beaucoup plus loin.
Mm-hmm. Non.
Donc, en gros, plus de critiques à formuler. Ceci dit, ils auraient pu s'avouer vaincus sans reconnaître leur... leur tort, entre guillemets. Mm-hmm. Or, justement, la déclaration qui est entre guillemets à partir du mot « voilà », montre qu'ils comprennent la situation et qu'ils sont un petit peu contrits d'avoir été trop durs et sévères avec Pierre, je pense. Et moi, ce qui m'a passionné là, dans ce bref verset, c'est de découvrir qu'un groupe de gens qui s'étaient quand même monté un peu le bourrichon contre Pierre change en un clin d'œil. Sur base de la réalité des faits exposés par Pierre, tout d'un coup, ce qui était mauvaise humeur, colère, devient plutôt positif et même louange, quelque part, hein, quand on lit le verset.
Se remettre en question, quelque part, c'est ce qui m'a frappé aussi. On peut ne pas être d'accord, on peut peut-être même se fâcher ou quoi, mais c'est important, je crois, de pouvoir se remettre en question, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que justement Luc ne dit pas qu'ils se sont excusés auprès de Pierre de l'avoir mal jugé, mais qu'ils au fond, on pourrait dire qu'ils explosent en louange vis-à-vis de Dieu pour ce que Dieu a fait, pas pour ce que Pierre a fait.
Oui, c'est ça.
Pierre n'a fait qu'obéir finalement aux révélations, et voilà. C'est ça qui clôt finalement le différent qu'il y avait entre eux et Pierre et ses compagnons, quoi. D'ailleurs, je me faisais la réflexion suivante. Ben, on aimerait bien que ce soit souvent aussi comme ça dans l'Église.
Oui, ça serait...
Qu'on finisse nos conflits par la louange. Donc, se taire et glorifier Dieu, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire.
Voilà,
quand on dit, voilà, cette attitude de se taire, de ne pas continuer à argumenter et de glorifier Dieu, ça prouve justement la reconnaissance de leur erreur, erreur de jugement, parce qu'il ne s'agit pas d'une faute, erreur de jugement concernant Pierre, puisqu'il n'avait pas les cartes en main pour comprendre ce qui s'était passé, autant à Jopé qu'à Césarée d'ailleurs. Donc voilà, je pense que les choses maintenant sont remises à niveau, en tout cas jusqu'au chapitre 15, on va avoir la paix. Après, ce sera un petit peu plus délicat.
C'est quand même souvent ce qui se passe quand il y a un conflit, c'est qu'on écoute, on n'a pas tous les éléments en main, et on réagit au quart de tour, je suis bien placée pour le savoir, et alors on réagit alors qu'on n'a pas encore...
On n'a pas tous les éléments.
Oui. Et alors on ne s'est pas écouté parce qu'on suit son idée... Mm-hmm. Et alors ça clash, quoi.
Et parfois, tu as les éléments, mais tu ne peux pas les entendre.
Aussi.
Ne veux pas, tu ne peux pas, parce que ta colère est telle.
Oui, voilà.
Tu es embarqué dans quelque chose et Et tout ce que l'autre pourrait dire pour se justifier est interprété.
Oui.
Donc mal, évidemment.
Oui. Hein,
c'est un peu ça qui nous caractérise quand même en tant qu'humain.
Quoi, hein.
Et alors, il y a donc la partie B, hein, donc la déclaration qu'ils font, voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. Est-ce qu'on a quelque chose à partager ? De nouveau, la traduction française pêche un peu, hein, mais bon.
Moi, j'ai gloire à Dieu, moi. Toi, tu as...
Oui, oui.
Non, moi, j'ai mis pas. Qu'ils arrivaient à la même...
Ils rendirent gloire à Dieu.
Ah, ils rendirent gloire.
Pardon.
Pardon.
J'ai marqué qu'ils arrivent à la même conclusion que Pierre et acceptent aussi d'accueillir les non-juifs.
C'est ça.
Voilà.
C'est ce que j'avais marqué.
En tout cas, laisse la porte ouverte à cela. Mais oui. Toi, la traduction française pêche dans ce... Donc, je relis le truc. Quand elle déclare... voilà que Dieu a donné aussi, ça n'y est pas en grec. C'est plutôt, on devrait plutôt traduire à donner même aux païens. C'est ça l'argument. Hein. Donc c'est pas que nous les juifs qui avons droit, mais apparemment les païens aussi. Et c'est la raison pour laquelle ils rendent gloire à Dieu finalement. Au fond, c'est pour un juif le fait que les païens entrent dans l'alliance, puissent entrer dans l'alliance. C'est découvrir la grâce de Dieu qui est à son comble. Eux, ils croyaient que Dieu avait des limites dans sa grâce, mais apparemment non, puisque Dieu va jusqu'au bout du sauvetage de l'humanité, en passant par les Juifs, c'est vrai, puisque le salut vient d'eux, au travers de Jésus déjà. Donc c'est comme si on disait, ouais, Dieu va jusqu'au bout de son amour, hein, un amour qui touche toute l'humanité, c'est pas juste un groupe, un peuple... un amour et un salut qui débordent depuis le peuple juif lui-même. Donc sans les juifs, pas de salut, hein, en gros. En tout cas, tel que l'histoire nous le raconte. Hein. Et désormais donc, et c'est un peu ça ce que tu disais tout à l'heure avec tes mots, c'est comme si eux, au travers de cette louange, disaient, ben voilà, désormais juifs et gentils sont dans la même barque. On va devoir faire avec, on va devoir apprendre à se côtoyer, à ne plus avoir peur de toutes nos règles, etc., etc. Ce qui n'est pas gagné du tout. Hein, on verra que ça...
C'est un sacré changement.
Ça va devenir quand même un autre problème à partir du chapitre 15. Quoi. Et alors, la déclaration un peu bizarre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans vos versions, mais dire voilà qu'il a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie... Je ne sais pas ce que vous avez pour la finale.
J'ai marqué, donc, c'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer et de recevoir la vraie vie.
D'accord.
J'ai second, c'est la repentance à la vie.
Mais c'est changer de comportement, c'est pas très... Je trouve que c'est drôle.
La repentance, c'est mieux.
De recevoir la vraie vie.
Je pense...
On sait souvent les comportements.
Oui, c'est pour...
Le terme grec, c'est métanoïan. Donc ça veut dire... le demi-tour, demi-tour par rapport à son péché, demi-tour vers Dieu.
Voilà.
La métanoïa, c'est ce changement-là. Donc, si vous avez des termes comme changement, ça colle assez bien. Repentance aussi pourrait être, puisque la repentance pour le phénomène hébraïque, c'est justement le retour à Dieu, hein, la reconnaissance de son tort et le retour vers le Dieu.
Ce que je trouve de bien dans ce mot repentance, c'est que la première idée, repentance, ça vient de l'homme. L'homme se repent, mais c'est Dieu qui donne la repentance. Et donc on voit là, ce qu'on avait dit la semaine passée aussi, l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre qu'on doit se repentir. Ça ne vient pas de nous, mais de Dieu. Parce qu'il est dit, Dieu a donc accordé, il a donné la repentance.
Oui.
Donc la vraie, véritable repentance vient de Dieu.
Qui œuvre pour ça dans nos cœurs. Hein. Et alors, bon, de nouveau, en français, à moins que vous ayez un grand V pour le mot « vie », très souvent, c'est « vie » et « veilleux » tout simplement au normal. Mais alors, c'est la grosse confusion. Parce qu'en grec, il y a deux termes pour la vie. Il y a le mot « bios » qui a donné le mot « biologique » en français, etc., qui est la vie humaine, normale, etc. Et puis, il y a la « zoé ». La Zoé, c'est la vie qui vient d'en haut, celle qui descend du ciel. Et donc, c'est justement Zoé qui est là, ici, dans le texte. c'est la vie avec un grand V. Et donc c'est intéressant de voir que dans le raisonnement, ils disent voilà qu'il a aussi accordé la repentance à ces païens, qui les mènent eux aussi à la vraie vie, si vous voulez, à la vie authentique, la vie qui vient d'en haut, qui est la vie céleste, la vie que Dieu offre justement, et qui est plus donc que le bios. Le bios, c'est une bonne chose, mais la vie avec un grand V, c'est quand même 100 fois mieux, quoi. Voilà. Donc c'est toujours un peu dommage que nos traductions, c'est pas qu'elles pêchent, elles disent le mot vie, effectivement, mais si elles ne mettent pas un grand V, alors il y a une sérieuse confusion. C'est vraiment la vie telle que Jésus la concevait. Voilà, je vous donne la vie en abondance, c'est pas le bios, hein. On va pas avoir 1000 ans à vivre, hein. Mais par contre, on a la vie éternelle, qui, elle, est celle que le ciel nous offre.
Darby traduit bien repentance pour la vie.
Pour la vie.
Ouais. Donc il a donné aux nations la repentance pour la vie.
Et tu as un grand V ?
Non.
Non,
ce qui est pour le grec, ça, tu vois. Ça colle totalement au grec.
Ah oui.
Dieu.
C'est Darby, ça.
La conversion pour la vie à donner.
Dis-moi un peu le deuxième nom de vie, d'Octabios.
Octabios et Zoé. Qui a donné le prénom Zoé, d'ailleurs.
Et ça s'écrit Z, Zoé, ouais. Zoé. Ah bon.
Ah, j'ai un petit V, moi, mais il me renvoie à une remarque qui dit que c'est vie éternelle.
Ouais. Ah, oui. Et là, il a raison. Ah, au moins, ça, c'est juste. Oui, tu peux très bien mettre un petit V, mais si tu as un commentaire à côté qui t'explique qu'en fait, c'est plus que la vie biologique. Quoi. Ouais. Sinon, il y a confusion quelque part. Ouais. OK, voilà. Alors maintenant, si vous aviez l'une ou l'autre application par rapport alors, à la péricope entière, évidemment, on pourrait ainsi terminer cette péricope et passer à celle qui nous attend. Je dis tout de suite que je n'ai pas terminé de préparer, donc je n'ai pas fait les derniers versets 27 à 30. Voilà, est-ce que vous auriez l'une ou l'autre application ?
Ben, on vient de dire. Hein,
oui, ben oui.
Au conflit, à la colère.
Non, mais sans blaguer, je crois que c'est vrai.
Ben oui,
si, face au conflit, si on pouvait développer, comment dirais-je, une attitude réactive qui serait de dire d'abord j'écoute, après éventuellement je pose mes limites ou mon jugement, ça serait déjà bien parce qu'on éviterait une grande partie des conflits. Alors se taire et puis vraiment se tourner vers Dieu et dire ok, c'est toi qui as raison, nous on te remercie d'avoir sauvé les païens, formidable, quoi. Ok, ça s'en est une. Moi, je me mets dans la peau de Pierre. Je pensais à une application liée au leadership. Hein. Je me demande si dans les conflits, ou la gestion des conflits, ou la gestion des critiques, voire, hein, par rapport au leadership, par exemple, il faudrait peut-être que les leaders apprennent à exposer les faits avec humilité, comme Pierre l'a fait dans cette péricope. C'est-à-dire, lui, il n'est pas en train de se défendre hein, en les provoquant, en étant arrogant ou quoi que ce soit. Au contraire, il expose les faits tels qu'ils sont, avec le moins d'émotions négatives possibles, avec humilité. J'ai même marqué douceur, patience et respect. Il aurait pu s'élever en tant que chef de la meute hein, en disant « Mais non, les gars, c'est quand même moi le chef ici. Hein. » Donc, il n'a pas fait preuve d'autorité ni de colère. Ça, je pense, c'est quand même quelque chose qu'on, en termes de leadership, on doit aussi apprendre
ce qui n'est pas
dans l'Église, en tout cas.
Parce qu'on a l'habitude d'imposer un petit peu sa volonté, quelque part, et donc ça ne doit pas être très facile.
Et le penchant, alors, de cette idée, pour moi, c'est... Alors, si ça, c'est vrai pour les leaders, ça doit être aussi vrai en Église, de parfois la base, hein, de reconnaître sa responsabilité ou ses torts, ou voir ses fautes hein, par rapport au leader. Parce que parfois, on a vite fait de juger le leadership de l'un ou de l'autre sans avoir tout compris de ce qui se passe, etc. Quoi. Sinon, autre constat. Bon, y en a un qu'on a déjà fait plusieurs fois dans d'autres péricopes. Hein. C'est que le salut est pour tous. Une fois de plus, on nous le rappelle ici dans ce passage, quoi. Tous les hommes, juifs et gentils, sont appelés au salut. pour le dire autrement, tous les hommes sont sauvables, entre guillemets, avec ou sans la circoncision. Ça, c'est quand même le neuf de cette péricope, c'est ça. Avant, on avait dit, oui, tout le monde est sauvable, mais maintenant, on peut ajouter que l'on soit circoncis ou incirconcis. Et j'ai mis pour rigoler, entre parenthèses, ce qui est quand même déjà le cas des femmes. Ils n'ont pas ce problème. Voilà.
Celui-là.
Un point de gagné.
Oui, c'est ça.
Pour une fois.
Autre chose ? Ok. Alors, dans ce cas, on ne va pas lire la totalité de la péricope suivante. Donc, je commence au verset 19. Et je propose d'aller jusqu'à... Je dis pas une bêtise. Jusqu'à 26. Si on peut. Bon, on verra bien où on en est. Hein. Donc, si quelqu'un veut le lire, donc 19 à 26 inclus.
Tu veux que je lise, mais c'est la version français courant, la dernière version français courant, ça va ?
Oui, ça m'est égal, moi. De toute façon, on n'a pas tous la même.
Donc. Ben voilà, de toute façon. Mais c'est parce que c'est quand même un petit peu différent. La persécution qui survint au moment où Étienne fut tué avait obligé les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et ils s'adressèrent aussi à des personnes de langue grecque en leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Jusque où t'as dit 26. La puissance du Seigneur était avec eux, de sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle et ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Barnabas était en effet un homme bon, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une multitude de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin d'y chercher Paul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous les deux une année entière dans cette église et ils instruisirent dans la foi de nombreuses personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Ok. Très bien. Alors, un petit mot d'introduction. On peut dire que cette péricope-là, jusqu'à 30, hein, en gros, eh bien, elle joue le même rôle que les précédentes, c'est-à-dire à partir du chapitre 10, verset 1, jusqu'à 11, 18, on avait le développement constant, si vous voulez, de l'Église auprès des païens. Donc c'est une suite logique, ce qui se passe, la fondation de l'Église à Antioche. Jusqu'ici, la différence est ça, jusqu'ici il s'agissait essentiellement des païens qui se trouvaient en Palestine, donc en Samarie et en Judée. Tout ce qu'on a lu jusqu'à présent se déroulait sur l'ancien territoire du royaume d'Israël, si vous voulez. Maintenant, on découvre que l'œuvre se poursuit en territoire païen, c'est-à-dire hors des frontières de la Palestine romaine, loin de Jérusalem. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut retenir si on veut comprendre un petit peu les enjeux de cette péricope-ci. Et puis maintenant, il faut essayer de comprendre... c'est quoi cette église d'Antioche ? Est-ce que vous avez fait quelques petites recherches sur la ville, par exemple ? Parce que c'est assez impressionnant. Puis après, on se lancera dans l'explication du verset 19...
C'était juste au bord de la Méditerranée, l'Antioche que j'ai vu sur la carte.
C'est accessible, c'est pas ça.
En tout cas,
c'est accessible par terre et par mer.
Oui, tout à fait. Donc c'est un peu en retrait dans les terres, mais suffisamment navigable que pour. Il y avait un port assez colossal à Antioche, hein. Donc c'est pas de problème. Alors on dit Antioche de Syrie pour pas confondre avec la Pisidie. Et Antioche de Syrie, c'est aujourd'hui en Turquie, si vous voulez.
C'est maintenant la Turquie.
Oui. Et c'était une ville païenne dédiée au culte d'Apollon. Et Apollon, c'est qui? Évidemment, c'était un dieu païen. Dieu de la musique et du chant, ça devrait te plaire, ça.
Oui.
Aussi de la beauté masculine,
la beauté,
ça te plaît aussi.
Ça, c'est moi, c'est pas pour ça qu'on y pensait.
De la lumière, de la lumière solaire,
ah.
Un petit peu. Et puis des purifications et de la guérison, c'était un peu tous ces attributs. Mais c'était aussi, parmi les principaux dieux, un dieu capable de divination, donc de voir les choses, d'annoncer, de prophétiser, etc. Consulté entre autres à Delphes, je ne sais pas si vous vous souvenez,
oui,
la pitié de Delphes, voilà.
Ah oui,
donc ça fait aussi partie d'ailleurs du reste des récits qu'on découvrira. Ça fait des histoires. Donc une ville bien païenne, quoi, une ville,
oui, oui.
Une ville bien ancrée dans son paganisme, dans laquelle, alors vous savez, on a déjà parlé d'Antioche il y a un bon moment, où je vous avais dit que c'était quand même une ville terriblement important, puisqu'il y avait environ 300 000 habitants. C'était un grand port commercial, une grande ville, très peuplée. Parmi les 300 000 habitants, plusieurs milliers de juifs établis, alors de juifs judaïsants, hein, pas de juifs messianiques.
Excuse-moi, il s'agit bien d'Antioche en Syrie.
Oui. Ah, voilà. Antioche de Syrie, Antioche, à l'époque c'était la Syrie.
Oui.
Okay. Voilà. Maintenant c'est en Turquie. Alors,
c'était la troisième capitale de l'Empire romain.
Exactement. Donc c'est pas rien.
Ah oui.
C'est-à-dire que Antioche, après Rome et Alexandrie, est la troisième grande ville de l'Empire romain. Et pas que ça, parce que c'était aussi le quartier général de la légion syrienne de Rome, donc de ce qu'on appelait la Syrie à l'époque. Donc il y avait le grand quartier général d'une légion romaine. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'était une ville commerciale, c'est-à-dire un grand centre commercial, parce qu'en fait, les caravaniers venant d'Asie et d'Europe commerçaient à cet endroit-là. On venait chercher les produits d'Asie, alors l'Asie, style Asie mineure, mais aussi l'Asie beaucoup plus lointaine, et les caravanes qui remontaient par Damas aussi, jusque-là. Et donc, on pourrait dire un centre de rencontre de peuplades différentes, de commerçants, etc. Une ville extrêmement riche. Et comme dans beaucoup de villes où on brasse des cultures, une ville plus ouverte aux différences, et notamment à la différence religieuse. Ce qui veut dire que c'était facile de démarrer un nouveau culte, si vous voulez, parce qu'on n'allait pas se faire taper sur les doigts, en tout cas pas comme à Jérusalem, ça c'est clair. Donc quelque chose de plus cool pour travailler, et comme je vous l'ai dit, dans cette grande ville commerciale, beaucoup de juifs étaient établis, pas ceux de la persécution, déjà de bien avant, il y avait des colonies juives, notamment de commerçants, qui travaillaient à cet endroit-là. Voilà pour Antioche, en tout cas, je ne sais pas s'il y avait autre chose dans vos découvertes.
Ça n'est plus vraiment la ville d'Antioche maintenant, que j'ai vu. La ville d'Antioche est un peu plus loin, quoi. Elle porte un autre nom, et tout à fait dernièrement, il y a eu un tremblement de terre, mais phénoménal, qui n'a pas laissé grand-chose debout. Et Erdogan avait promis de réparer ça en un an, et ils sont toujours au même point. Donc, c'est ce que j'avais lu. Non, je pense que c'est juste. Ouais.
Donc, avant d'aller plus loin, accrochons-nous un peu au verset 19. Alors, maintenant qu'on a un petit peu posé le milieu culturel et géographique. Donc, le texte nous dit que ceux qui avaient été dispersés après l'affaire d'Étienne et le meurtre d'Étienne étaient passés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Donc, juifs messianiques qui, eux, se sont autorisés à parler aux juifs judaïsants non messianiques, c'est-à-dire à leur apporter la bonne nouvelle, comme ça s'est passé ailleurs, en Judée, etc. Jusque-là, tout va bien. On s'aperçoit donc qu'il y a eu une migration, si vous voulez. Il y a des juifs qui sont partis de la Judée et qui se sont retrouvés en Phénicie. Alors Phénicie, c'est, sur vos cartes bibliques, c'est la région de Tyr, Sidon, etc., sur la côte, hein, tout à fait au nord-nord, voilà, qui se trouve maintenant plutôt dans la partie libanaise. Voilà. Donc la Phénicie, c'était là, en dehors en tout cas de la juridiction romaine dite de Palestine. Puis à Chypre, vous avez... Alors, je pense sur ta carte, tu ne l'as pas, mais
non, je l'ai pas.
La partie la plus orientale de la mer Méditerranée, l'île de Chypre, et puis Antioche, évidemment, où il y avait déjà une sacrée colonie juive, donc pas de souci pour aller là. Est-ce que vous avez une idée à combien de kilomètres se situe Antioche, par exemple, par rapport à Jérusalem ? Un peu plus, un tout petit peu plus, donc 780 kilomètres à peu près. Et donc si vous partez sur Chypre, c'est encore un peu plus loin et un petit peu moins accessible puisqu'il n'y a pas de route pour y aller, qu'il faut prendre le bateau. Donc ça, c'est la première vague, si vous voulez, de la migration. Par contre, à partir du verset 20, on nous parle d'une autre catégorie de juifs. C'est-à-dire, on pourrait croire, parce qu'il y a les mêmes noms, Chypre, etc., Antioche, on pourrait croire que ce sont ceux qui ont transité par la Phénicie, par Chypre et Antioche, mais pas du tout. Ça, ce sont, on nous parle de juifs qui sont originaires de Chypre et de Cyrène. D'accord ? Puisqu'on nous dit clairement, en tout cas le grec le souligne, qu'ils viennent d'arriver à Antioche, quoi. Voilà. Donc, voilà que parmi ceux qui ont été touchés par la grâce, peut-être au moyen de la première vague, hein, de ceux qui ont migré vers Chypre, vers la Phénicie, etc., un certain nombre de Juifs venant de Chypre et de Cyrène, alors Cyrène, c'est le nord de la Libye actuelle, si vous voulez, hein, ça vous donne une idée, c'est encore un peu plus loin, donc venant du bassin méditerranéen, arrive à Antioche et on nous dit qu'il s'adresse, alors, aux Grecs, sous-entendu aux personnes parlant grec. Hein. Et en général, si on dit aux Grecs, c'est donc qu'il ne s'adresse pas aux Juifs. Puisqu'il leur parle grec, c'est parce que c'est des païens, tout simplement. Et parce que nos versions françaises sont un petit peu confuse et on a un peu l'impression que c'est les mêmes acteurs, mais c'est pas tout à fait ça. Et ça nous explique pourquoi cette église d'Antioche va être composée essentiellement de païens. Parce que les conversions vont pleuvoir à ce moment-là. Donc, rappelons-nous une chose, ça date maintenant, hein, mais je ne sais pas si vous vous rappelez qu'au chapitre 6, verset 6, c'est facile à retenir, on nous mentionnait déjà un certain nombre de personnages parmi les sept qui avaient été retenus pour organiser le diaconat de l'église de Jérusalem. Il y avait justement Nicolas, qui était un prosélyte, lui, Nicolas, originaire d'Antioche. On avait un certain Barnabas, vous vous rappelez, dont on va reparler, et un certain Mnason, qui venait de Chypre, originaire de Chypre. Et on sait aussi, c'est un autre aspect, que Lucius, ça c'est plus loin dans les Actes, dans le chapitre 13, Lucius était originaire de Cyrène. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de personnages dans les Actes qui sont des Juifs qui ont migré vers les territoires de la Syrie romaine de l'époque, ou voire la Judée, etc. Donc on voyageait. Jusque-là, c'est clair. Et c'est dans ce contexte donc que les Juifs qui sont déplacés à Antioche, des Juifs messianiques évidemment, hellénistes, parlant grec, originaires de Chypre et de Cyrène, adressent le message de la bonne nouvelle à ceux qui parlent grec, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas judaïsants. Alors, pourquoi le font-ils ? On peut se poser des questions. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'à Chypre, à Cyrène, voire même à Antioche, on n'est pas à Jérusalem. Et donc on est élevé de manière plus souple, plus large que ceux de Judée, et qu'ils étaient, eux, habitués à côtoyer des gentils à longueur d'année. Parce qu'ils sont dans des territoires païens, ils sont originaires de territoires païens, ils sont nés dans des territoires païens. Et donc ils ont une habileté à communiquer, à ne pas s'offusquer des mœurs des païens, comme le sont ceux de Jérusalem, beaucoup plus puristes et radicaux, comme on l'a déjà vu. Et c'est sans doute la raison de leur action auprès des païens. Alors, maintenant, on peut se poser une question. On peut se poser la question, est-ce qu'ils ont entendu parler de ce qui s'est passé à Césarée ? Est-ce qu'ils ont entendu parler du ministère de Pierre ou pas ? On n'en sait rien. Donc, on peut l'imaginer, mais ça ne nous apporte pas grand-chose pour comprendre le texte. Je pense qu'il faut le respecter totalement et se dire sans doute qu'ils n'étaient pas au courant. Puisque eux viennent d'arriver, voilà, ils transitent, ils arrivent. Ils arrivent peut-être pour commercer d'ailleurs, hein, ces braves gens, puisqu'on a vu que c'était un grand centre commercial.
Pourtant, il est marqué dans ma Bible à moi, si je lis bien. donc, ils arrivèrent de ces territoires-là. Ils s'adressèrent à des personnes de langue grecque en leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus.
Oui.
Ah oui, ce que tu as dit, c'est qu'ils ne savent pas s'il s'est passé. Excuse-moi.
Ils sont messianiques, mais ils ne savent peut-être pas
ce
qui s'est déjà passé pour les païens dans leur propre pays d'appartenance en tant que juifs.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas de scrupules à annoncer la nouvelle.
Exactement.
Oui, ils n'ont pas de soucis avec ça.
Exactement. Et contrairement à ce que font les juifs d'habitude, il semble qu'ils ne s'adressent pas aux synagogues. Oui. Alors qu'en général, tout juif va d'abord présenter sa vision des choses à la synagogue, s'en fait jeter les trois quarts du temps, puis commence autre chose après. Mais là, eux non, directement, comme s'ils avaient un souci pour les païens, ils attaquent ce monde-là. Alors, moi, je trouve que c'est quand même un événement, une grande première, quoi. Qui aurait pu imaginer, quelques mois auparavant, même après ce qui s'est passé avec Pierre, que ça allait démarrer sur les chapeaux de roue, et étrangement, par des gens qui ne sont non-apôtres, ils ne sont pas diacres, ils ne sont pas mandatés par Jérusalem.
C'est toi et moi.
Des anonymes, oui, totalement. Des non-résidents en Palestine. Ils n'appartiennent pas au territoire de la Palestine. Ils ne connaissent pas la Judée, etc. Ils sont peut-être allés à Jérusalem pour les cultes, les grandes fêtes de Pâques, etc. Mais en dehors de ça, ce sont des gens comme toi et moi, comme tu le dis. Et ils prennent donc l'initiative d'évangéliser en territoire païen. Car le verbe qui est utilisé en grec, c'est vraiment ça. Hein, c'est le terme évangéliser qui est utilisé.
Finalement, c'est grâce à eux
qu'on
est christianisé aujourd'hui.
En tout cas, c'est la première église judéo-païenne, si tu veux, composée de païens en majorité, qui démarre. C'est pas rien comme histoire.
Tu veux rappeler, parce que ça m'a échappé, j'étais pas là et j'ai pas bien écouté si ça a été dit. Comment est-ce qu'ils sont devenus messianiques ?
Ceux-là, on se le demande justement, vraisemblablement par la vague des migrants, la première vague du verset 19. Parce que jusque-là, on n'a pas entendu dire que la l'annonce de la bonne nouvelle ait été faite aux colonies juives à l'étranger. Alors, c'est possible qu'ils aient été touchés par justement des gens qui voyagent, etc. Pourquoi pas ? Moi, j'ai rien contre. Mais en tout cas, pour Chypre et la Cyrène, c'est-à-dire la Libye actuelle, on doit imaginer que la vague de migrants partis après la persécution a fait des petits. Hein ? Même si on ne parle pas encore d'église, parce que ça se passe entre juifs. Voilà. Tandis qu'ici, le texte que nous avons sous les yeux va nous dire que ça, c'est la deuxième église de l'histoire. La première, c'est Jérusalem. La seconde, c'est Antioche, en territoire païen. C'est la grande découverte. Moi, je trouve que le zèle donc de ces des juifs messianiques, le zèle de ces premiers chrétiens, est tout à fait remarquable. Voilà. Ils ont osé ce que même les apôtres n'ont pas osé. Parce que finalement, Pierre n'a rien osé, il a été un peu contraint.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Mais là, eux, ils ne sont pas contraints, et boum ! Et la réponse est terrible. Puisqu'au verset 21, ça correspondait à la question...
par
quel moyen a lieu la croissance de l'église d'Antioche ? Ben, on découvre que le Seigneur est avec eux. C'est ce que dit le texte. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction. Moi, j'en ai une qui n'est pas mirobolante.
Quel verset ?
21.
La main du Seigneur était avec elle, je suis sûre. Avec eux.
Oui. Oui, moi, j'ai leur prêté main forte, mais ça, c'est quand même une espèce. Quoi, hein. Donc, effectivement, en grec, c'est bien la main. La main du Seigneur avec eux. Et c'est un hébraïsme. Vous vous rappelez, on a déjà vu ça sans doute dans les premiers chapitres des Actes. La main, c'est une manière d'exprimer la puissance qui les accompagne. Être donc dans la main, sous la main, etc., du Seigneur, c'est être accompagné d'une capacité étonnante de prêcher la parole, finalement. Une locution aussi qui souligne une intervention directe de Dieu. Donc, si la main de Dieu est avec nous, c'est que Dieu agit. C'est pas juste « Allez, je me cache derrière vous », quoi. Il est aux premières lignes avec eux. Et du coup, on comprend mieux le succès de ces évangélistes en herbe, voilà, anonymes. Hein. De nouveau, on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient au courant de l'affaire de Pierre à Césarée ? Peut-être, peut-être pas. Mais ce qui est important... c'est la preuve qui nous est donnée, preuve à l'appui, c'est que le Christ est avec eux. Le succès de l'opération démontre que Dieu est avec eux de nouveau, puisqu'on nous dit qu'il y a de nombreuses conversions. Alors, en grec, il y a de nombreux ayant cru. Voilà. Donc il y a des gens qui répondent finalement à cette évangélisation de manière assez massive. Et donc une église naît, une église composée en partie de juifs messianiques, pour l'heure en tout cas, peut-être quelques dizaines, et de nombreux, on ne sait pas combien, et de nombreux païens convertis, non pas au judaïsme, mais à la voie messianique. Ce qui d'ailleurs ne pose pas de problème, apparemment, dans notre texte. On ne se pose pas la question de savoir si ces païens doivent être circoncis. Ça viendra beaucoup plus tard, toujours à Antioche, quand la guerre sera déclarée au sujet de la circoncision. Mais on n'en est pas encore là. Voilà. Alors moi, je trouve ça extraordinaire quand même, qu'une poignée d'individus issus de la grande diaspora, convertis peut-être sous l'égide de la première vague de migrants, devenus juifs messianiques, évangélisent dans un territoire qui n'est pas le leur, mais auprès de gens qu'ils connaissent plus ou moins, c'est-à-dire qui parlent grec, qui sont païens, pour eux ça ne les rebute pas, et un franc succès de cette opération, assez incroyable. Au point que, qu'est-ce qui se passe ?
Ben on va appeler Barnabas.
Le bruit.
En tout cas, on constate une fois plus dans les Actes que la communication fonctionne bien. À une époque où il n'y a pas de GSM, pas de télévision. Mais alors, évidemment, on ne sait pas comment la nouvelle a pu arriver à Jérusalem. Je rappelle 780 bornes quand même. Comment oui, ça a pu arriver commerce. Ah oui, bien sûr. Il y a des juifs qui voyagent, il y a des juifs qui vont à Jérusalem pour des raisons religieuses, il y a ceux qui commercent, etc. Donc il peut toujours y avoir une occasion de rencontre. Ah, on ne sait pas non plus combien de temps il a fallu pour que la nouvelle arrive à Jérusalem. Si je relis bien dans le grec... C'est un peu vague dans le grec. On sait simplement qu'il est entendu. On a entendu dire à Jérusalem que. quelque chose dans ce goût-là. Et donc, une fois au courant, alors Jérusalem, quand on dit Jérusalem, on dit évidemment les dirigeants, hein, le cercle des apôtres, des diacres, etc. Une fois mis au courant d'un événement qui doit leur paraître totalement incroyable, ils avaient déjà eu l'affaire de Pierre à Césarée, là, c'est quand même le summum, quoi. Hein. Et cette conversion, alors, on pourrait parler de conversion en masse, hein, des païens, hors Palestine, ça retient toute leur attention. Et ils se disent, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et donc ils délèguent, dit le texte, comme on avait d'ailleurs envoyé Pierre, rappelez-vous, et Jean en Samarie. Donc dès qu'on a su que des païens s'étaient convertis en Samarie, on y a envoyé ceux qui étaient sous la main. Et Samarie, c'est pas très loin. Mais là, on délègue un homme vers l'église d'Antioche, le fameux Barnabas.
De Chypre, c'est ça que ça dit.
Mais qu'on a déjà rencontré, nous, au chapitre 4, au chapitre 9, puis qu'on reverra au chapitre 13, 14, puis au chapitre 15. Donc il va devenir un personnage bien connu. C'est le fameux Barnabas qui, si on traduit son nom, c'est fils de l'exhortation, et qui lui aussi est originaire de Chypre. Donc qui, on peut se dire, tiens, pourquoi ils envoient Barnabas? Ben, il envoie parce qu'il correspond à la situation. Il parle grec couramment, il est originaire de Chypre, comme ceux qui ont été faire du foin à Antioche. Et on l'envoie à Antioche parce que peut-être il n'avait pas de charge très officielle à Jérusalem et qu'on pouvait s'en détacher un moment. Et on va voir que le moment, ça va durer, hein, de nouveau. Donc quand on part de Jérusalem, on ne sait pas quand on y revient, en gros. Alors, pour rappel, on sait déjà par les chapitres précédents que c'était un homme pieux, un homme généreux. Ici, le texte nous dit « bon », c'est un nouveau qualificatif,
rempli d'Esprit Saint.
Ok, donc au verset 24, on trouve un certain nombre de renseignements sur qui est ce fameux Barnabas. Et on pourrait se dire que Jérusalem, eh bien, a le souci de bâtir de bonnes relations, de solides relations, devrais-je même dire, avec cette nouvelle église, une nouvelle église atypique pour la Judée, en tout cas pour Jérusalem, une église hors norme qui n'a rien à voir avec celle de Jérusalem, sinon que c'est le même Seigneur qui est adoré. En dehors de ça, à part quelques juifs messianiques qui y sont, ça brille par les origines païennes, en tout cas. Alors, il y a sans doute un souci pastoral aussi, comme on l'a vu pour Pierre dans certaines occasions, un souci pastoral pour une jeune église, allez, on va dire, pour se donner une image, à 80% païenne et à 20% juive, il y a toujours peut-être la crainte du dérapage aussi, de la non-connaissance de l'Écriture, qui fait que la délégation est quand même aussi une réponse à tout cela. Et donc, c'est également le souci d'apporter une aide concrète de la part de Jérusalem, non pas parce que Jérusalem se prendrait pour l'église phare, mais parce qu'elle se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de besoins, puisque ce sont des païens d'origine qui ne connaissent rien de l'Écriture, et encore moins du judaïsme. Donc, voilà, on l'envoie pour pallier à l'enseignement. Et on découvre déjà au verset 24 que c'est un gars qui exhorte, donc qui a une capacité d'encourager les gens à demeurer ferme dans la foi, etc. Et puis on voit au verset 26 qu'il se met à enseigner avec Saul de Tarse, puisqu'il ne s'appelle pas encore Paul à ce moment-là. Donc voilà, je pense que les choses sont dites. Néanmoins, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on pourrait dire, tiens, Antioche, est-ce qu'ils vont être... Ils avaient envie de recevoir quelqu'un qui vient de Jérusalem pour les contrôler ou je ne sais pas quoi. Ah non, apparemment, Antioche absorbe le gaillard, se réjouit d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de Barnabas?
Ben, il est réjoui. Hein.
Mais qu'est-ce qui le réjouit là-dedans?
Il constate la grâce de Dieu.
Donc, il réagit.
Donc il constate non pas qu'elle a été exécutée, mais qu'elle se poursuit. Hein. Donc, l'œuvre se poursuit. Et il est super réjoui de voir que ce qui a commencé par l'évangélisation de quelques-uns est devenu une église relativement importante. Et alors, du coup, ben, dans sa joie, il leur conseille, il les exhorte à rester attachés au Seigneur. Et il faut bien se dire que derrière ces mots se cache une vraie réalité. Ces gens n'ont connu que le paganisme. On a parlé d'Apollon tout à l'heure. Hein. Ils n'ont connu que des cultes de sacrifices aux idoles, etc., etc. Rester attaché au Seigneur, c'était pas facile. Parce que ça veut dire quand même d'adopter une déculturation ou une acculturation. C'est-à-dire, autant je baignais dans une atmosphère païenne quotidienne, autant maintenant je dois me méfier de mes origines, de mon paganisme, et ne pas y retomber si possible, puisque j'ai découvert en Jésus quelqu'un qui me délivre totalement. Donc je pense qu'il a raison de les encourager, sans doute de manière répétitive, à rester attachés au Seigneur. Et on voit que son travail porte du fruit. C'est-à-dire que non seulement il les encourage, mais la présence de Barnabas, c'est ce qu'on découvre au verset 24, fin du verset 24, parce que la foule considérable dont on parle ici, qui se joignit au Seigneur, ça c'est la foule qui s'est rajoutée à ceux qui composaient déjà l'église d'Antioche, d'accord ? Donc encore un peu plus de païens sont entrés dans l'église avec la présence de Barnabas comme « enseignant » entre guillemets à Antioche. Oui, je crois que j'ai dit l'essentiel, je pense. En tout cas, bon, ce qui moi m'a étonné, c'est de voir que Barnabas constate la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il peut l'observer tangiblement, se rendre compte de la présence et de l'œuvre de Dieu, sans doute par le comportement de ceux qui étaient autrefois païens, qui ont changé complètement de culture, mais aussi, sans doute aussi par les sacrifices que consentait cette population païenne pour demeurer ferme. Parce que ça veut dire se couper d'une partie des activités sociales et culturelles de leur propre ville. Peut-être même en frisant le rejet des autres, d'ailleurs, hein, pour ça. Donc le rattachement au Seigneur, c'est peut-être un prix un peu fort à payer, même s'il n'y a pas de persécution à ce moment-là. Donc une foule considérable se joignit au Seigneur, c'est ce qu'on retrouve dans le verset 24. Comme en tout cas une des conséquences immédiates du ministère de Barnabas, mais aussi des qualités de Barnabas, hein, un homme bon, plein d'esprit, de foi, etc. Ça nous fait un peu penser à Étienne au chapitre 6, hein, le même genre de bonhomme, quoi. Hein. Et alors tout d'un coup, poum, comme un cheveu sur la soupe, verset 25, on nous dit ah, Barnabas parti.
Oui.
Mais que pour faire quoi ?
Ben, il avait une idée d'aller chercher Saul.
Alors, chercher Saul à Tarse, pourquoi ?
Pourquoi a-t-il porté ?
Pour venir renseigner.
Oh, mais qu'est-ce qu'il en sait, lui ?
Oui, oui, mais attends.
Attends.
En tout cas, c'est un.
Qu'est-ce qu'il en sait ? Il connaît Paul.
Oui, oui, il connaît Paul.
Donc,
oui, c'est lui qui a introduit Paul au collège.
Voilà, exactement.
Oui, mais oui,
donc, Paul, Barnabas et Paul se connaissent.
Oui, c'est juste.
Paul et Barnabas se connaissent.
Ouais.
Barnabas a eu confiance, rappelons-nous, dans le passé. Barnabas a eu confiance en Paul, alors que tout le monde s'en méfiait. Et l'a introduit auprès du cercle des apôtres. Donc, on va dire, première raison, il connaît bien le bonhomme. Il connaît sa croyance, il connaît son zèle pour l'évangile. Alors, deuxième chose, c'est quand même un pharisien qui enseignait déjà, même tout jeune. Donc, Saul possède des qualités, des aptitudes pour l'enseignement, l'enseignement individuel, mais l'enseignement public également. D'ailleurs, on le voit bien dans tous ses discours, dans des villes comme Athènes, etc. C'est époustouflant quand on y sera. Et puis la dernière raison est purement géographique. Oui. Rappelons-nous, Jérusalem, 780 bornes. C'est quand même difficile d'aller chercher quelqu'un.
Et là, combien ?
Et là, donc, alors, on a deux possibilités. Parce que Antioche et Tarse sont deux grands ports maritimes. Alors, soit on y va en bateau, et c'est très bref, c'est 137 km.
C'est très vite, oui, c'est vrai.
Soit on y va par la route du nord, c'est-à-dire 240 km. Voilà. Dans les deux cas, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que de retourner à Jérusalem, chercher quelqu'un. Et enfin, à la réponse, je pense à la question que j'avais posée, pourquoi y va-t-il chercher ce Paul qu'il connaît pour toutes les raisons qu'on a évoquées ? Parce qu'il y a trop de boulot.
Ben oui, c'est ça.
Il y a trop de travail. C'est pas quand tu convertis des juifs qui deviennent messianiques, ils ont déjà toutes les bases. Parce qu'il n'existe rien d'autre que l'Ancien Testament à l'époque, n'est-ce pas ? Il n'y a pas le Nouveau Testament. Donc, tout le monde maîtrise l'Écriture. C'est juste l'interprétation qui diffère parce qu'on découvre que le Messie est venu. Tandis que pour des païens, ils n'ont aucune base à part leur paganisme. Et donc leur parler d'un Dieu, même si c'était un Dieu unique, alors qu'eux en ont quand même pas mal, des dieux et des déesses, hein, et que chaque ville avait un dieu approprié, comme ici Apollon, c'est quand même un sacré boulot. Donc tu peux imaginer que la poignée de ceux qui ont évangélisé plus Barnabas ne suffisait plus à gérer la catéchèse des adultes, c'est-à-dire l'enseignement d'adultes n'ayant aucune connaissance de l'écriture judéo-messianique, et devant tout apprendre. Et dardard pour pas que ça capote. Donc je pense qu'il a eu raison de partir très vite, une fois qu'il s'est rendu compte de l'ampleur que prenait la vie d'Antioche, pour aller chercher quelqu'un au plus près pour venir l'épauler. Ça vous va ?
Et à l'époque, est-ce que Paul était déjà décrit comme étant la personne plus pour apporter la bonne nouvelle aux païens ? C'est après.
Oui, non, il l'était déjà, rappelez-vous, quand on a vu les textes dans les Actes, on sait déjà qu'il était appelé à cela. Alors, jusque-là, l'a-t-il fait ? A-t-il rempli déjà cette mission ? Ou est-ce pour la première fois, en répondant oui à Barnabas et en venant à Antioche, qu'il fait un vrai travail parmi les païens? On n'en sait rien. Rappelez-vous, il avait été en Arabie. Il a été aussi en Syrie pendant tout un temps. Là, il est dans la région de Tarse, mais Tarse et Antioche font partie de la même province romaine. Donc avec des liens directs entre les villes, etc. A-t-il commencé un travail du côté de Tarse dont les actes ne nous disent rien? C'est pas impossible. Connaissant Paul et son zèle, ça paraît un peu bizarre qu'il n'ait rien foutu, parce que c'est quand même 10 ans depuis. 10 ans se sont écoulés depuis l'histoire de Jérusalem, Saul à Jérusalem, quoi, tu vois, avec Barnabas. Donc, tu dis quand même, il ne s'est pas roulé les pouces pendant 10 ans. Ou alors, il a, et je pense que certains commentateurs le disent d'ailleurs, il a peut-être opté pour préparer ce travail auprès des païens. C'est-à-dire mieux comprendre les cultures de sa ville d'origine, Tarse en Cilicie, mieux comprendre le paganisme, pouvoir démonter les mécanismes, peut-être préparer des catéchèses pour les adultes. C'est peut-être aussi pour ça que Barnabas va le chercher, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, on peut imaginer qu'un gars qui a été éduqué par Gamaliel, qui était pharisien lui-même et enseignant, ne s'est pas roulé les pouces pendant 10 ans. Alors qu'il n'ait pas fondé d'église, soit. Ça, je pense que les actes en parleraient. Mais qu'il n'ait pas travaillé parmi les païens, qu'il n'ait pas commencé à réfléchir à un ministère parmi les païens, ça paraît un peu tiré par les cheveux.
Ce que tu dis, ça me parle, parce que quand on va en pays étranger, encore toujours maintenant, les missionnaires, on leur apprend toi, tu es mieux placé que moi pour le dire, à comprendre
la culture de l'autre. Et donc, on voit d'ailleurs que Pierre... Alors, Tarse, vous vous rappelez, c'était aussi une grande école de la philosophie grecque. Il y avait beaucoup d'enseignants, beaucoup de philosophes à Tarse. Peut-être que là aussi, il a suivi des cours, parce que quand on voit le discours qu'il prononcera à Athènes, on se rend bien compte qu'il connaît l'histoire de la mythologie grecque, il connaît la philosophie grecque, et il va argumenter avec les plus grands. Il n'a pas peur, donc il se sent totalement à l'aise. Voilà. Maintenant, fermons la parenthèse, parce que tout ça, on n'en sait trop rien, on va dire, mais on peut imaginer assez facilement. Vous êtes retenu par une question, quelque chose qui cloche ?
Non. Il a l'air d'accepter tout de suite, en tout cas. Donc, oui, ça ne me donne pas l'impression qu'il
perçoit un peu. Par contre, on se rend compte que Barnabas ne l'a pas trouvé tout de suite.
Non, parce que quand il le trouve.
Ouais. Donc le grec est très clair, il ne l'a pas trouvé tout de suite à Tarse. Peut-être était-il en vadrouille, voilà, mais, ou en train de suivre un cours et que l'autre le cherchait chez lui puis il n'y était pas. Non, j'en sais rien, mais bon, voilà. Ça n'a pas été facile pour Barnabas. En tout cas, il est super content de revenir avec lui. Puisqu'il y dit, il le trouva puis il l'amena à Antioche direct, quoi, poum. Donc Saul n'a pas... Saul, je pense, a compris que là était sa mission. Ce qui lui avait été prédit plusieurs années auparavant, que son travail serait parmi les païens, se concrétise pleinement là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se concrétise non pas par sa propre volonté, mais parce que Antioche est née. L'église d'Antioche est née de trois fois rien, et maintenant c'est devenu une telle église qu'il faut quelqu'un de son calibre, en tout cas, pour enseigner. Et c'est d'ailleurs ce qu'on découvre au verset suivant. Quand il est dit qu'il l'amena à Antioche, on nous dit qu'ils passèrent une année entière à travailler, hein, ce n'est pas juste le tourisme, à travailler ensemble dans cette église. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en français, est-ce que c'est aussi église ?
Dans cette église, oui.
Dans l'assemblée.
Assemblée. Ok, assemblée, église, ok. Parce qu'en fait, pour la première fois, c'est le mot église qui est nommé en dehors du territoire de la Palestine. On avait déjà parlé d'église pour Jérusalem, mais donc le fait d'utiliser le même mot ecclésia pour parler d'Antioche revient à dire qu'Antioche est égale à Jérusalem et que Jérusalem reconnaît cette communauté de juifs messianiques comme une église à part entière composée essentiellement de païens. C'est quand même pas rien, quoi. Donc, soit, mais revenons à nos moutons. Il passe donc une année à travailler ensemble. Et on sait que, alors si vous relisez les épîtres pastorales de Paul, on sait que quand Paul travaille, il n'y a pas de limite, sauf l'épuisement. Ça veut dire quoi ? Que Paul était capable de travailler le matin pour gagner sa vie, faiseur de tentes, rappelez-vous, et puis de passer tout le reste de la journée, parfois même, selon certaines histoires, très tard dans la nuit, pour enseigner les gens. Alors, soit d'une sorte de un à un, soit une prédication publique, etc. Donc, on se rend compte que à deux, puisqu'il est bien question de deux, Barnabas et Saul, œuvrent pour l'église d'Antioche, sans discontinuer. Et le verset précise qu'ils sont face à une foule considérable. Donc, jusque-là, Antioche n'a pas cessé de grandir. Donc les besoins sont de plus en plus grands. À tel point que c'est connu. C'est-à-dire, je veux dire, dans toute la province, on sait qu'à Antioche, il y a un nouveau groupe religieux qui rencontre un succès incroyable, quoi. Donc, vu par les païens, ça devait être quand même bizarre de voir que un dieu invisible pouvait réunir autant de gens. On ne lui offre pas de sacrifice, il n'y a pas tout ce tralala. Et puis, c'est le top, quoi. Ouais. Ça rend peut-être jaloux aussi un peu, mais bon, voilà, en attendant, c'est ce qui se passe. Alors, comment pouvait être l'enseignement ? En tout cas, sans doute plusieurs heures d'affilée, 4, 5, 6 heures, et sous la forme très rabbinique, hein, c'est-à-dire questions-réponses, commentaires, et surtout interprétations. notamment, je suppose, au sujet de la notion de Messie. Prouver aux païens que ce Messie était annoncé bien avant, des millénaires auparavant, et que c'est lui qu'on adore, c'est lui maintenant qui nous révèle qui est le vrai Dieu, etc. Donc c'est tout un travail de fond, quelque chose qui devait être colossal à mon avis. Hein. Déjà, quand on a une vie de pasteur bien remplie, on est déjà hein, bien occupé, et parfois même épuisé, on imagine ce que ça pouvait être à l'époque. Hein. Alors, et c'est là que le texte conclut alors... Je ne sais pas si j'avais posé une question là-dessus. Que c'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. Alors moi, j'ai une question, si je ne l'ai pas noté là. Qui les appelle comme ça?
Les autres, non? Je crois que c'est un groupe...
Oui, oui, ils ne s'appellent pas eux-mêmes comme ça. Ils sont appelés.
Oui, ils sont appelés comme ça.
C'est un peu une moquerie, quoi.
Oui. Tu crois que c'est un nom?
Ça peut l'être. Bon, il paraît qu'à Antioche, c'était courant de se foutre de la tête des gens. D'accord? Mais sans doute que le succès est tel que tout Antioche ne peut pas ne pas savoir qu'il existe un grand groupe religieux. Alors, comment on va les appeler?
Eux-mêmes s'appelaient les disciples de la voie. Il n'y avait pas de raison.
Oui, frère, il y avait des tas d'autres appellations.
C'est pas avec Ictus, non.
Non, c'est basé sur Christos, hein, le terme Christos. Mais, au fond, alors, si on devait le traduire en, je dirais, en un français qui nous rende les choses faciles à comprendre, il les traite finalement de partisans du Christ. Alors, on pourrait dire adeptes, si vous voulez, dans une forme moins délicate. Les partisans du Christ. Parce que pour eux, les païens, le mot Christ n'a pas le sens que lui accordent les juifs. Le mot Christ, c'est comme un nom. Un nom commun, si vous voulez. Donc, on pouvait être partisan de tel empereur romain, partisan, peu importe, hein, de n'importe quel parti. Et là, pour eux, ben voilà, ils les traitent de partisans du Christ, comme si ils suivaient... un gars qui a dit des choses intéressantes, quoi. Voilà. Et donc, il est impossible pour des juifs d'appeler ces juifs messianiques ou ces pagano-chrétiens de les appeler partisans du Christ. Un juif ne peut pas dire ça. Puisque lui, dans sa tête, si vous voulez, si je dis que je suis partisan du Christ, je suis partisan du Messie. C'est ça que va se traduire dans le judaïsme. Et comment des juifs pourraient dire que ce sont des partisans du Messie, les gens, les adeptes du Messie, alors qu'eux ne reconnaissent pas que le Messie est déjà venu? C'est impossible, tout simplement. Alors, on doit bien reconnaître ici que c'est bien l'entourage païen d'Antioche qui appelle ce groupe comme ça, pour rigoler un petit peu, pas spécialement méchamment, parce qu'ils aimaient faire... tourner les choses à la rigolade, bon. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui peut passer pour une moquerie gentille va devenir une réalité. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième siècle, là on est au premier siècle, à partir du deuxième siècle, les chrétiens vont porter avec fierté ce nom. Partisans du Christ, parce que c'est ce qu'ils sont. Sur tous les païens. Imaginez, le juif n'a pas besoin d'être partisan du Messie. S'il reconnaît son Messie, ça va de soi. Mais là, ces gens ne connaissaient ni le judaïsme, ni Jésus, deviennent partisans de Jésus. Pourquoi ne pas porter ce nom de manière fière? Parce que c'est la réalité. Et finalement, comme tu le disais Anne-Marie tout à l'heure, grâce à Antioche, nous sommes devenus chrétiens. Et nous sommes fiers, même si notre histoire n'est pas toujours mirobolante en tant qu'Église, mais on est quand même fiers d'être ceux qui poursuivent la même croyance, la même foi, les mêmes œuvres que le Christ nous invite à remplir dans nos vies. Moi, je trouve ça assez extraordinaire, finalement. Et alors, ça me fait un peu penser qu'on a déjà des petites blagues comme ça dans le Nouveau Testament. Hein, quand on a vu ça dans les Actes, au moment où le Sanhédrin essaye de régler ses comptes.
Oui, tu veux aussi être de ce...
Oui, bah, il y a Pilate qui raconte des blagues. Enfin, on voit qu'il y a, même chez Luc, une envie de se dire ben, même ce qui est blague devient réalité. Même ce qui est blague peut être prophétique quelque part. Et voilà. Alors du coup, ben, moi, je me suis arrêté là parce que je n'avais plus assez de temps pour terminer le reste du texte. Puis je me dis, bon, finalement, c'est pas trop mal. On s'était déjà dit la fois passée que ça n'avait rien à voir avec la péricope, mais qu'on le ferait pour pouvoir terminer le chapitre. Donc on aura ces quelques versets la prochaine fois. Et alors, je ne sais plus, mais je pense qu'on attaquerait le chapitre 12. Il faut que je vérifie un truc, parce que j'ai pas ma note là sous les yeux. Je pense sans doute jusqu'au verset 11, donc 1 à 11 du 12, qui nous montre un peu la méchanceté d'Hérode et sa visée persécutoire contre l'Église. Et donc on s'arrêtera au 11 parce que c'est le moment où Pierre est délivré de la prison un peu miraculeusement. Puis le reste, alors c'est une autre histoire, c'est quand il arrive, il retrouve ses frères et sœurs et puis que tout le monde se demande si c'est vraiment lui.
On ne lui ouvre pas la porte. Il est là et puis il a fait le tour. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, franchement.
Voilà. Et donc, on aura aussi les applications pour terminer la prochaine fois sur ce passage-là. Je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas regardé.
Oh, moi, j'ai moins deux.
Donc, il nous restera quand même... des questions 8 à 10 pour la prochaine fois, tout ce qui a trait à l'arrivée de ces prophètes, etc. Là aussi, il y a quelques petites choses à découvrir. Voilà.